ici Radiodiffusion de la Nation française.
En janvier 1945, Radio Vichy n'existe plus. Et Jean Oberlé, l'une des voix françaises de Radio Londres, est rentré à Paris. Sur les ondes nationales, il partage un sentiment.
Plus on étudie l'histoire de cette guerre et celle de la résistance, et plus on apprend à admirer les femmes de chez nous, les Françaises ont, à mon avis, plus de bon sens, plus d'intelligence véritable et au moins autant de patriotisme que les Français.
Dès 1945, Jean Oberlé visait juste. La guerre et l'occupation allemande ont permis à de nombreuses Françaises d'exprimer leur bravoure, leur esprit de solidarité et leur sens civique.
Je voudrais servir la France, par n'importe quel moyen.
Une aventure féminine menée avec les hommes.
Vous vous appellerez Vega. Votre contact sera Orion.
Très bien.
Résistants et résistantes furent à la même enseigne dans la clandestinité et le combat.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Dans ce dernier épisode, à l'exception de Mila Racine, morte sous les bombes en 1945, nos autres résistantes entrent dans l'âge de la vieillesse. Au crépuscule du XXe siècle, ces quatre femmes s'approchent de leur propre mort. Mais ces résistantes ont-elles été reconnues à leur juste valeur, à l'égal des hommes, justement?
Au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Lucie Aubrac, Simone Mathieu, Geneviève de Gaulle, René Davély et Mila Racine nous ont légué une certaine idée de la France. Alors, quel regard portent les historiens sur leur destin hors du commun? Enfin, quel héritage et quelles traces mémorielles nos cinq femmes ont-elles laissées après leur mort? C'est la trame de cet ultime épisode.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. Dixième et dernier épisode, Le courage en héritage.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations de maquis.
Vous avez posé vous-même les pains de plastique?
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait?
C'était pour sauver son pays.
Ce dernier épisode commence le 11 octobre 2023, dans le parc des Écureuils, en périphérie de la ville d'Annemasse, à la frontière franco-suisse. Nous sommes au pied des montagnes, mais le paysage est assez plat. C'est un fond de vallée. C'est là, en Haute-Savoie, que Martine Abatz, notre reporter, est arrivée depuis Paris, accompagnée d'un vieux monsieur de 88 ans.
Mon nom est André Panzer. Je suis grand-père maintenant, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, j'étais un enfant.
Et la famille de cet enfant est d'origine hongroise, une modeste famille juive. Mais André Panzer, lui, est né à Paris le 17 septembre 1935. Il est donc français.
Après avoir traversé la France en zigzag pour fuir les risques d'arrestation, mes parents et moi avons abouti à Nice. Et mes parents ont dû prendre la clandestinité complète et pour être plus libres de leur mouvement, de se séparer de moi. Et ils m'ont confié à une organisation clandestine pour passer en Suisse.
En 1943, trois jours après son 8e anniversaire, André Panzer doit faire preuve d'un immense courage.
Un matin, ma mère m'a pris sur ses genoux. On a fait des adieux. Mon père m'a pris aussi sur ses genoux en me disant « Maintenant, tu as 8 ans, tu es un grand garçon. Il va falloir que tu te sauves tout seul. »
C'est-à-dire qu'ils vous ont dit « On va se séparer de toi. »
Ah oui, 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 ils m'ont préparé à ça. Mais il faut s'imaginer que c'était en 1943 et depuis pratiquement 2 ans, on avait plus ou moins été formés à la clandestinité. Par exemple, lorsque mes parents ont eu des faux papiers, qu'ils ont changé de nom, ma mère, par exemple, me réveillait parfois la nuit pour me demander mon nom. Et il fallait que je donne le faux nom. Enfin, toutes sortes de choses comme ça qui nous ont préparés.
Le 20 septembre 1943, le père d'André lui prend la main et l'emmène à la gare de Nice.
Mon père m'a amené près d'un kiosque à journaux. On regardait la vitrine et puis, subitement, il m'a lâché la main. Et puis il est parti. Je savais que je ne devais pas me retourner et j'ai attendu que quelque chose se passe.
Longtemps.
Moi, ça m'a paru très longtemps, mais ça a peut-être duré 3 minutes, 5 minutes, je n'en sais rien. Une personne est venue, un homme, il m'a pris par la main. On est rentré dans un compartiment. Le compartiment était vide, si ce n'est qu'il y avait un couple. Il devait avoir entre 18 et 20 ans, ou 25 ans au maximum. Ils lisaient, tous les deux, et ils ne sont pas préoccupés de moi. Ce monsieur m'a assis sur la banquette, puis il est redescendu. Et tout ça sans un mot, sans rien me dire. Et puis le train est parti. Et on est arrivé à Annecy. À Annecy, les deux jeunes qui lisaient pendant tout le temps du voyage se sont levés. Ils m'ont pris par la main. Et sur le quai de la gare d'Annecy, ils se sont approchés d'une jeune fille. Et arrivé à sa hauteur, ils m'ont lâché la main et ils ont continué. Je me suis trouvé donc devant cette jeune fille qui, elle, m'a aussi pris par la main. Et on est sorti de la gare, elle m'a emmené chez elle où se trouvaient déjà 4 ou 5 autres enfants.
Elle était comment, cette jeune femme ?
Elle était belle. Pour moi, un petit garçon, c'était une belle jeune femme.
Tous ces inconnus qui vous prennent par la main, ça vous inquiète ?
Non, j'avais confiance en eux. Non, parce que je savais que ça faisait partie de la clandestinité et je leur ai pas posé de questions.
La jeune femme conduit André Panzer à la périphérie d'Annemasse, près d'Annecy, où sont regroupés d'autres enfants.
Elle nous a arrêtés dans un genre de café-restaurant et on nous a demandé de rester tranquille, de ne pas faire de bruit. Et on a somnolé, enfin, le soir déjà un peu tard, il faisait très sombre. 4 jeunes gens sont arrivés par l'arrière de ce café. L'un d'entre eux nous a expliqué qu'ils étaient des passeurs, qu'ils allaient nous emmener jusqu'à la frontière, qu'il fallait faire attention de ne pas se perdre, de rester bien groupés, et surtout de ne pas parler, de ne pas pleurer, de ne pas marcher sur des branches mortes qui cassent et qui craquent, et surtout, dès qu'on entendait le moindre bruit, de s'allonger par terre.
Chut. Annel.
On se tenait par la main. Et comme j'étais un des plus jeunes et seul, certains étaient en général avec un frère ou un autre enfant de la famille. Moi, j'étais seul. Donc, c'est cette jeune femme qui, elle, m'a donné la main. C'est-à-dire que c'est elle qui, d'Annemasse jusqu'à la frontière, malgré les passeurs, m'a donné la main pour me rassurer et puis pour être en confiance avec un adulte. Jusqu'à ce qu'on arrive au bord d'une rivière qui devait faire 4-5 mètres de large. Cette rivière s'appelle le Foron et c'est celle qui délimite la frontière entre la France et la Suisse. L'un des passeurs, l'un des jeunes gens, est descendu dans l'eau. Il avait de l'eau jusqu'au mollet et il nous a pris d'une berge, il nous a déposé sur l'autre.
Il vous a saisi dans les bras?
Et il m'a pris sous les bras, comme ça, et puis il nous a expliqué que sur l'autre berge, il y avait les barbelés et que pour passer ces barbelés, il fallait gratter la terre et passer en dessous. On s'est glissé sous les barbelés, on s'est mis à courir le plus loin possible. C'est comme ça que j'ai été sauvé, voilà.
Après son passage de la frontière, André Panzer est confié à une famille suisse-allemande qui vit dans la montagne. À la fin de la guerre, André retrouve ses parents, mais une grande partie de sa famille a disparu à Auschwitz-Birkenau. Revenons à cette jeune femme, grâce à qui André Panzer est toujours en vie en 2023.
Est-ce que vous vous souvenez donc de cette jeune fille ?
Alors le seul souvenir que j'ai d'elle, c'est que je l'ai trouvée très belle. Elle a été gentille en plus. J'ai appris par la suite, tout à fait par hasard, à la réception d'un courrier en provenant des États-Unis, d'une dame qui me dit que le 21 septembre 1943, un groupe d'enfants est passé en Suisse. Parmi eux, il y avait un André Panzer. Est-ce vous ? Et j'ai appris par son intermédiaire que la jeune femme s'appelait Mila Racine et j'ai appris par elle tout ce qu'elle a fait.
Ce vieux monsieur est une trace mémorielle vivante de Mila Racine.
Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez mis un nom sur cette jeune femme qui vous avait fait traverser ?
Bon, cette jeune femme qui pour moi était aussi très idéalisée, subitement... C'est devenu une amie. Bizarrement, alors que je ne la connaissais pas, que si ce n'est que peut-être la chaleur de sa main, c'est tout. C'est vraiment devenu une amie. Et puis, en plus, qui est morte très jeune, quoi.
Souvenez-vous, Mila Racine est morte à 25 ans, sous les bombes anglaises, le 20 mars 1945, alors qu'elle était prisonnière du camp de Mauthausen. Mila Racine était russe, émigrée en France avec sa famille depuis 1928, et la République française a été reconnaissante.
Oui, et très vite, puisque en juin 1946, elle obtient la médaille de la Résistance française. Et en 50, elle est citée à l'ordre de la division par la 8e région militaire, qui est Lyon.
L'historienne Zoé Grimbert.
Donc c'est une reconnaissance posthume, mais qui a toute son importance pour la reconnaissance de la trajectoire de l'engagement de cette jeune femme. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la ville d'Annemasse a inauguré cette année, en mai dernier, un parc au nom de Mila Racine. Ce qui montre aussi une commémoration, alors tardive, mais existante, de cette figure importante. Et par ailleurs, on peut noter qu'en 1981, le groupe Viso France a inauguré une crèche au nom de Mila Racine, au nord de Tel Aviv, pour célébrer la mémoire de cette jeune femme résistante.
La Viso, c'est l'Organisation internationale sioniste des femmes, une structure qui vise à promouvoir la place des femmes dans la société juive. Et c'est donc la branche française de la Viso qui a œuvré pour qu'une crèche porte le nom de Mila Racine à Tel Aviv. Et France Culture y était.
Bonjour, nous sommes le mercredi 6 janvier 1982, il est 7h02, vous écoutez donc les matinales, un reportage de Brigitte Alléo et Laurence Bloch. Aujourd'hui, Mila Racine, jeune fille résistante, morte en déportation en 1944 et le 25 novembre 1981, on inaugurait à Tel Aviv, dans le moderne quartier de Tamnit Lamet, au nord de Tel Aviv, une crèche à son nom. Vous entendez le clic des photographes, vous entendez les applaudissements et la bousculade. Alors pourquoi parler de Mila et pourquoi parler de cette crèche? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que Mila représente aujourd'hui encore, en France, la résistance juive.
Pour conclure sur ce destin de Mila Racine, laissons la parole à l'historienne Zoé Grimbert.
Ce qui me marque dans son destin, c'est son engagement pour les autres. Depuis l'entre-deux-guerres, on a vu que dès la fin des années 30, elle est engagée pour les autres dans une volonté d'aide. C'est aussi son courage et son sang-froid, particulièrement quand on pense à son âge. C'est quand même une jeune femme d'une vingtaine d'années et ça demande du courage de convoyer des enfants alors qu'on risque la persécution, la déportation, l'arrestation, la torture.
Et la mort.
Et la mort. Et elle le sait. Et malgré tout, elle s'engage et elle risque sa vie constamment pour aider les enfants. Et ce qui me marque aussi, c'est que cet engagement est porté par un idéal politique, le sionisme, qui est un idéal qui a été transmis par son père, mais qu'elle a fait sien et qu'elle a porté depuis la fin des années 30, en réponse à l'antisémitisme qu'elle avait pu connaître en Russie, qu'elle a constaté en Europe avec l'Allemagne nazie, puis la France. Et son engagement et sa résistance témoignent de son rêve d'un avenir meilleur, un avenir qu'elle espérait en Palestine, en paix évidemment, et l'a conduite à se battre et à se mobiliser pour le sauvetage des Juifs. Et c'est ça qu'on peut retenir, je pense, dans ce parcours de jeune femme au destin malheureusement tragique.
Avant de s'éclipser à son tour, Simone Mathieu est apparue une dernière fois en public le 11 juin 1978. À l'occasion des 50 ans du tournoi de Roland-Garros.
1938 encore.
C'est Yves Mourouzi, sur le cours central, qui accueille celles et ceux qui ont déjà remporté le tournoi.
Et aussi 1939, une Française, Madame Simone Mathieu.
Simone Mathieu, celle qui a créé le corps des volontaires françaises en 1940, est morte le 7 janvier 1980 à Chatou, dans une indifférence générale. À peine quelques lignes dans la presse. Depuis, néanmoins, on a quelque peu ravivé sa mémoire, en deux temps. C'est ce que nous explique l'historien Éric Allary.
Il y a une double réparation. La première, c'est le trophée qui est remis aux femmes qui gagnent le double dame de Roland-Garros, qui est le trophée Simone Mathieu.
Aujourd'hui encore, le tournoi double dame s'appelle bien le Trophée Simone Mathieu. Et par ailleurs, en 2019, on a inauguré à Roland-Garros un court de tennis à son nom.
Et là, c'est l'apothéose tout de même pour elle, très longtemps après sa mort, qui est effectivement cette inauguration avec le président Sarkozy d'un stade de 5000 places, qui est le stade Simone Mathieu. Elle se retrouve à côté du stade Suzanne Lenglen. Les deux plus grandes stars du tennis français, voire parmi les plus grandes stars du tennis mondial féminin, se retrouvent côte à côte, honorées par le nom d'un stade.
Nous avons le plaisir de vous offrir une performance musicale conçue spécialement pour la célébration du cours Simone Mathieu. Maestro, à vous l'honneur.
Le regard que je porte sur Simone Mathieu, c'est que elle fait partie de ces grandes figures de la résistance, mais qui a été injustement oubliée par les hommes.
Vous pouvez disposer.
Qui a été quelque peu rattrapée, pourrait-on dire, par les instances tennistiques françaises. C'est une femme qui, à mon avis, aurait mérité d'avoir la même place dans l'iconographie de la résistance que Bertie Albrecht, bon, qui est morte certes à Auschwitz, mais que Lucie Aubrac a vécu et que Geneviève Antonios de Gaulle. Et peut-être que Simone Mathieu faisait tout pour ne pas attirer sur elle le regard, la lumière, les spots.
Si Simone Mathieu tenait à distance la célébrité, disons que René Davély a longtemps couru après elle. Mais notre troisième personnage est morte dans l'anonymat le 17 juillet 1977. Elle avait 75 ans. Décorée de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur le destin de cette vedette aux armées durant la guerre ?
René Davély a de fortes spécificités dans cette galerie des cinq femmes que nous brossons.
Olivier Loube est historien.
D'abord, elle est la plus âgée. Donc, on ne peut pas attribuer, de près ou de loin, son engagement à la jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas rien, dans les caractéristiques socio-culturelles de l'engagement, la jeunesse est un élément fort. Ça la classe de façon déjà particulière. Il y a aussi l'autre aspect, c'est qu'elle n'est pas en situation de clandestinité. On est amené justement à définir dans les ambivalences. Pas les ambiguïtés. Il n'y a rien d'ambigu dans son engagement. Mais les ambivalences de situation, c'est-à-dire il y a un peu parfois la pédagogie des contraires. Par exemple, si vous prenez l'aspect familial et son engagement, c'est pas vraiment une mère au sens de maman, mais c'est une extraordinaire marraine. Si vous prenez l'aspect de la chanteuse, c'est pas une star française, ni même une vedette en France, mais c'est une vedette qui incarne la France. Donc c'est une vedette extérieure, ponctuelle, 10 ans quand même à peu près, mais c'est ponctuel dans sa vie, qui en fait 75. Et donc c'est une gracieuse ambassadrice de la chanson française, je cite les journaux de l'époque, mais ça n'est pas une vedette de la chanson. Il n'y a pas de mémoire d'elle comme chanteuse, et on peut comprendre pourquoi, même si c'est assez injuste par rapport à ses enregistrements et à ce qu'elle a pu faire à l'extérieur. D'autre part, c'est pas non plus vraiment une chanteuse réaliste, ambivalence à nouveau. C'est une chanteuse à accordéon, c'est son arme de guerre incontestablement, c'est une vraie chanteuse parisienne à l'extérieur, mais sauf à Paris. Et puis, c'est pas réellement une résistante, mais elle est très résistante aux aléas de la vie d'une femme du XXe siècle. Alors ça, pour le coup, c'est remarquable. Elle traverse des aléas personnels, conjugaux. Au moment où elle pense pouvoir se stabiliser avec quelqu'un qui va lui permettre de se lancer, pareil, ça, la guerre intervient. Puis ensuite, on ne lui permet pas de continuer, ou elle ne correspond plus au temps. Et donc, elle est très souvent à contre-temps, mais elle fait des choix où elle essaie de réhabiter son temps, et elle le fait de façon personnelle. Donc, elle est très originale dans votre choix. Donc, c'est un profil peut-être secondaire, mais extraordinaire de française très libre.
Enregistrement de René Davély sur un disque 78 tours.
On a chanté en américain mille refrains. En argentin, en turc, en allemand, ce petit couplet charmant. De quiero, querido mi amor, c'est toro mio. De quiero, quiero vivir siempre, siempre contigo.
René Davély, une Française libre. Passons maintenant au rayon des icônes. Dès le mois de mars 1944, sur les ondes de la BBC, Lucie Aubrac, notre quatrième personnage, était déjà présentée comme une héroïne.
La presse mondiale a parlé de Lucie Aubrac, cette femme qui, dans des circonstances particulièrement romanesques, arracha son mari des griffes de la Gestapo et qui, pendant plusieurs semaines, vécut avec lui caché dans le maquis.
Alors il faut dire que si elle est devenue une icône, c'est pour toutes les raisons qu'on a dites, mais aussi parce que, on passe assez souvent là-dessus, elle a passé des années entières à aller dans toutes les écoles, collèges, lycées, universités de France pour parler à des jeunes gens.
Le professeur d'histoire que fut Lucie Aubrac au lycée Édouard Herriot de Lyon a souligné devant son jeune auditoire attentif les faits marquants de résistance mais aussi de collaboration.
Au lycée Jean Guéhenno de Saint-Amand-Montrond, Lucie Aubrac est venue apporter une parole irremplaçable, celle des témoins directs de la guerre, qui marque à jamais ceux qui l'écoutent.
Après cette journée au Havre, Lucie Aubrac est repartie vers d'autres rendez-vous. Elle a 55 rencontres de ce type prévues d'ici fin mars.
Et elle a vu des milliers et des milliers d'enfants, de jeunes, d'étudiants. Et là, elle a tissé une espèce de toile incroyable à travers le pays.
L'historien Laurent Douzou.
Elle a fait ça même quand elle a été atteinte par la cécité. C'était une femme qui ne renonçait à rien, donc elle faisait comme si elle y voyait parfaitement alors qu'elle était aveugle. Et elle se déplaçait à travers toute la France, et ça a fait d'elle évidemment une icône. C'est une femme dont la parole était étonnamment claire, percutante, qui était pour la presse ce qu'on appelle un bon client. C'est-à-dire qu'on était sûr, quand on lui posait une question, d'avoir une réponse précise, formatée. Et donc toutes ces raisons ont fait d'elle une icône. Je crois que dans la mémoire collective française, elle est légale de gens comme Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Daniel Casanova, Bertie Albrecht, et je pourrais en citer d'autres. Elle a une place très très forte dans la mémoire collective, avec évidemment, quand on a une place de ce genre, une image caricaturale. C'est-à-dire qu'on retient d'elle qu'elle était agrégée d'histoire, alors qu'en fait, elle a toujours répété qu'elle n'était pas une chercheuse et que c'est pas ce qui l'intéressait. On parle très peu de ses qualités de pédagogue qui étaient éminentes. On parle très peu de son humilité profonde. Quand on étudie ce qu'elle a fait comme professeur, on est frappé par le fait qu'elle pouvait, quand elle enseignait au lycée d'Enghien, elle passait un mois de ses vacances d'été à faire de l'archéologie avec ses élèves, de façon parfaitement bénévole. De la même manière que quand elle a sillonné la France très âgée, elle l'a fait de façon totalement bénévole aussi. Donc c'est quelqu'un qui était une militante dans l'âme. Et je crois que ça, c'est important parce que ça explique aussi sa dimension iconique.
Quand des gens se sont engagés pour partir se battre dans les forces françaises libres, ces gens-là ont fait un acte illégal, ils ont désobéi.
Lucie Aubrac, 1984.
Ça fait un peu drôle qu'un vieux professeur d'histoire aille dire aux jeunes...
Apprenez à désobéir.
Une forme de la responsabilité dans la vie, c'est de savoir désobéir quand on veut vous faire faire quelque chose qui est inacceptable.
C'était l'une des dernières grandes figures de la résistance encore là pour raconter. Lucie Aubrac est morte hier soir à l'hôpital suisse d'Issy-les-Moulineaux. Elle avait 94 ans.
Le 14 mars 2007, Lucie Aubrac, incarnation de la résistance au féminin, s'est éteinte paisiblement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur le destin hors norme de Lucie Aubrac ?
Alors la réponse à votre question est délicate, parce que si je vous dis que je la prends pour un être d'exception, on va dire mais il n'est pas historien, il n'a aucune distance critique avec son sujet. Mais de fait, je suis quand même comme homme obligé de vous dire que c'était une personnalité extrêmement impressionnante, jusque dans son humilité. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est que pour avoir écrit sa biographie, elle a parfois tu des éléments qui étaient tout à son honneur, comme par exemple les années de vache maigre 1932-1937, alors qu'elle aurait pu en parler et vanter ses mérites. C'est quelqu'un qui, à mon sens, avait une audace folle, une très grande intelligence, mais qui n'était pas, comme on le croit souvent, une intellectuelle férue de théorie. C'est quelqu'un qui était une femme de terrain, qui attrapait la lumière, qui savait parler à des publics extraordinairement différents, pouvait parler un jour à des élèves d'école primaire, le lendemain à des étudiants de master. Dans les deux cas, comme un bouchon de liège, son niveau fluctuait en fonction de l'auditoire. Et évidemment, ça, ce sont des qualités très rares. Donc c'est une personnalité très très forte que j'ai peine à dissocier de la personnalité de son mari. Parce qu'en fait, quand je pense à elle, je pense à eux deux. Pour les avoir beaucoup fréquentés, mais pour avoir aussi beaucoup lu les archives, c'est quand même un couple hors norme aussi.
un couple éternel ?
C'est un couple qui va durer tant qu'on sera vivants l'un ou l'autre, mais pas au-delà.
Lucie Aubrac, 1996.
Et on commence à avoir un âge certain. 84 ans, c'est un âge. Hein. Ça fait beaucoup d'années. Et quand on a été habitué à être victorieux dans beaucoup des actes de sa vie, on s'aperçoit qu'il y a quand même une victoire qu'on n'arrive pas à dominer. C'est celle de l'âge.
Geneviève de Gaulle non plus n'a pas pu dominer la vieillesse. Et cette combattante des premières heures, cette autre icône de la résistance au féminin, est morte à Paris le 15 février 2002.
L'hommage de la classe politique à Geneviève de Gaulle-Anthonioz dans tous les camps politiques. On souligne son courage et son combat. La nièce du général de Gaulle a été résistante pendant la guerre, déportée à Ravensbrück. Puis elle a consacré toute sa vie à aider les plus pauvres au travers de l'association ATD Carmonde, pratiquement jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte hier soir à l'âge de 81 ans.
Alors, que représente Geneviève de Gaulle depuis sa mort dans notre imaginaire collectif ?
Geneviève de Gaulle, elle représente une forme de trait d'union. Je trouve que c'est une femme trait d'union.
Frédéric Naudufour est historienne.
Elle relie des facettes différentes de tout ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Elle est à la fois ce nom qui sonne haut et fort dans notre histoire. De Gaulle, c'est très impressionnant. Mais en même temps, elle est Anthonioz, elle est cette épouse qui aimait se voyager avec son mari, qui aimait faire la cuisine. Elle est à la fois celle qui a lutté contre une idéologie nazie, mais qui s'est engagée sur d'autres fronts. Par exemple, je pense à la guerre d'Algérie, je pense à la lutte contre la misère. Elle est à la fois extrêmement forte, elle est impressionnante de résilience et de force. Elle est une femme d'acier. Et en même temps, elle a cette stature très frêle. On dirait qu'elle est de cristal. Elle a une voix si douce. Elle ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Et son livre sur la déportation est un livre qui est écrit avec des mots très simples et en même temps qui est un livre d'une violence considérable. Donc, elle est aussi cette femme très concrète, cette femme des petits gestes de la résistance, cette femme de l'organisation au sein de la DIR, et en même temps cette femme très mystique, très spirituelle, qui a entretenu une correspondance toute sa vie avec une ermite qui vivait en Suisse. Elle est tout cela, et je pense que c'est aussi ça, être un autre Charles de Gaulle, c'est avoir toute cette facette qui permet de répondre à une réalité historique qui ne cesse de se mouvoir, de se changer, et ainsi de pouvoir s'y adapter.
Aujourd'hui, la France a rendez-vous avec le meilleur d'elle-même.
Le 27 mai 2015, le président François Hollande a choisi de faire entrer au Panthéon quatre figures de la Résistance, quatre destins qui incarnent les valeurs de la République. Pierre Brossolette, Jean Zay, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz.
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui à ce moment-là n'a pas 20 ans et se nomme de Gaulle. Le 17 juin 1940, quand elle entend l'insupportable demande d'armistice, elle n'attend pas. Elle n'attend pas l'appel de Charles de Gaulle, son oncle. Ce sera le lendemain, le 18 juin. Elle le précède. Parce que, dit-elle, il y a des moments dans la vie où les uns et les autres se disent tout à coup: c'est inacceptable.
Ce qui était inacceptable, c'était l'humiliation, c'était la lâcheté. C'est qu'on ne se battait pas et qu'on se bat jusqu'au bout contre un ennemi pareil.
Prenez place. Ici, c'est la vôtre. Vive la République et vive la France.
Ce transfert de Geneviève de Gaulle au Panthéon fut avant tout symbolique, car la famille a refusé que son corps quitte le caveau de Bossey, en Haute-Savoie, là où elle est inhumée auprès de son époux. Alors, dans le cercueil du Panthéon, on a déposé une poignée de terre du cimetière où elle repose. Geneviève de Gaulle, que nous allons retrouver à Chartres en mai 1975, lors d'une commémoration nationale en l'honneur des femmes résistantes.
Il y a 30 ans, sur un quai de la gare de l'Est, le général de Gaulle recevait les 300 premières survivantes de Ravensbrück.
Et ce discours va nous servir à amorcer un bilan. D'abord, écoutez bien ses intonations. À n'en pas douter, il y a du De Gaulle en elle.
Aujourd'hui, vous êtes venus de toute la France, mes camarades, 300 femmes de la résistance qui en représentaient des centaines d'autres, toutes ayant connu les prisons de la Gestapo, les forteresses, le camp de concentration.
Nous approchons de la fin de cette grande épopée consacrée aux femmes dans la résistance. Et peut-être peut-on essayer de synthétiser ce qu'a signifié résister au féminin.
Il y a un marqueur dont on a déjà parlé, c'est la précocité.
Catherine Lacour-Astol est historienne.
La précocité, elle est attestée par la recherche. C'est-à-dire, quelles que soient les données que l'on prend, on constate que l'engagement des femmes est précoce. Le deuxième marqueur, c'est la spontanéité. On en a parlé à propos des manifestations des ménagères, mais de la même façon, globalement, les femmes s'engagent sans mot d'ordre. Et on revient à cette histoire de transgression, les femmes s'engagent sans cadre. C'est-à-dire qu'elles sont, pour l'essentiel, en dehors des structures de sociabilité qui pouvaient porter éventuellement un engagement, partis politiques, structures syndicales, etc. Le militantisme féminin est très très restreint. Donc ça explique qu'il joue peu, beaucoup moins que pour les hommes. Et donc il y a cette forme de spontanéité, voire de réactivité. Il y a un engagement à corps perdu. Donc forcément, c'est un engagement où le sens du sacrifice est essentiel. Ce que je suis en train de dire vaut évidemment pour les hommes aussi. Mais là, on est vraiment à corps perdu. Les femmes ont tout à perdre. D'autant qu'elles, là pour le coup, elles avancent sans aucune protection.
Lucie Aubrac, 1993.
Toutes ces femmes-là, elles sont anonymes. La petite infirmière qui était au Vercors et qui soignait, qui relavait les pansements qui étaient souillés, qu'il fallait relaver pour remettre sur d'autres qui avaient été blessées.
René, ça calmera votre fièvre.
Des femmes qui ont ouvert leurs portes, qui ont mis quelque chose dans leur marmite pour partager avec d'autres. La paysanne, l'ouvrière, la concierge, n'importe quelle, la secrétaire de mairie, toutes celles-là, il faut absolument penser à elles. Parce que c'est ça le canevas sur lequel la France a pu être résistante.
Donc, résumons. Les spécificités de l'engagement féminin dans la résistance, c'est d'une part la précocité. Ça veut dire que les femmes se sont souvent engagées avant les hommes. Et d'autre part, la spontanéité. Autrement dit, un réflexe. Quoi d'autre ?
Un engagement aussi qui n'oublie quasiment jamais le foyer. Il y a évidemment des résistantes qui ont quitté le foyer. Mais pour celles qui s'engagent, bien souvent, on est dans une action qui va se faire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Ça, c'est une marque aussi de l'engagement féminin. Et puis, quand on dit un engagement au sein du foyer, c'est parfois aussi un engagement au sein du couple. Ça, c'est une dimension qu'on commence à peine à travailler, qui est très difficile à travailler, mais qui est extrêmement intéressante, la manière dont le couple résistant a pu fonctionner. Et pour finir sur votre résister au féminin, ce qui m'a semblé peut-être le plus difficile à mettre en évidence, mais le plus intéressant à mettre en évidence, c'est le fait que se résister au féminin, c'est un engagement autonome. Pour le mesurer, c'est assez compliqué. Il faut vraiment investiguer sur tout l'environnement de la résistante. Donc savoir mari ou pas mari, mari s'il est là ou pas, s'il est là, est-ce qu'il agit ou pas, éventuellement aller chez les grands-parents, chez les enfants, enfin voir avec qui ou pas la résistante s'engage. Quand on fait ce type de travail, on se rend compte que globalement, la population résistante féminine, pour les deux tiers d'entre elles, s'est engagée de manière totalement autonome. Soit que les femmes aient été célibataires, veuves, divorcées, ou mariées, mais en étant mariées, elles se sont engagées sans leur homme, voire éventuellement contre lui.
Et votre mari ? Elle est au courant de vos activités?
Absolument pas. Ma fille non plus.
Autre aspect important du bilan qu'on peut dresser, la reconnaissance sociétale de cet engagement féminin dans la résistance. À peine la France fut-elle libérée que nombreuses furent les cérémonies de reconnaissance pour les hommes.
Au nom du général de Gaulle.
Comme ici, en septembre 1944.
Nous vous reconnaissons pour notre compagnon dans la libération de la patrie, dans la gloire et par la victoire.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte de la reconnaissance des femmes résistantes en France ?
Alors, autant la répression a été conséquente, autant on peut dire que la reconnaissance a été ténue, puisque chacun connaît ce chiffre pour la distinction la plus prestigieuse qui est l'Ordre de la Libération, donc la Croix de la Libération, 1038 compagnons, 6 femmes. Donc on peut se gausser d'un poids estimé à 0,6%. J'y reviendrai après, c'est aller un petit peu vite en besogne lorsque l'on pose les choses comme ça. Mais globalement, on a un poids des femmes dans la reconnaissance, honorifique ou administrative, dont on ne peut qu'être certain qu'il est très inférieur à leur poids réel dans la résistance. C'est-à-dire quand on compare les chiffres de la reconnaissance et les chiffres de la répression et les chiffres des organisations résistantes, la reconnaissance est toujours en deçà. Après, est-ce qu'il faut en déduire le fait qu'on a choisi de ne pas reconnaître les femmes ? Les choses sont moins évidentes que ça. En particulier pour la Croix de la Libération dont on parle souvent, on peut très bien dire « 6 femmes, c'est ridicule ». On peut aussi dire « 6 femmes ». Pour une distinction qui est créée en temps de guerre et qui est destinée d'abord à honorer les premiers qui s'engagent dans la France libre, ce n'est pas rien. Même chose pour la médaille de la Résistance. La médaille de la Résistance, c'est des actes remarquables de foi et de courage en faveur de l'action résistante. Le poids des femmes, c'est un peu plus de 9%. Évidemment, c'est en dessous de leur rôle réel, mais c'est très au-dessus du poids qui est celui des femmes dans la population décorée traditionnellement. Sauf erreur de ma part, pour la Légion d'honneur, en 1939-1940, les femmes, c'est 2%. Donc là, on a un saut considérable. Et donc, on fait rentrer les femmes dans le champ des honneurs et dans le champ de la reconnaissance. Avec parcimonie, mais on le fait. Je voudrais, par rapport à ça, ajouter que les organisations résistantes, je l'ai dit tout à l'heure, identifient avec une extrême modestie leur comparse féminine, les femmes elles-mêmes représentent un véritable frein à la reconnaissance de leur engagement. Pour les décorations, ça ne se voit pas, parce qu'une décoration, on ne la réclame pas. On peut éventuellement le faire, mais pour l'essentiel, on est identifié comme devant être récipiendaire d'une décoration. En revanche, pour la reconnaissance administrative, celle qu'on appelle la carte de CVR, combattant volontaire de la résistance, la demande est faite par l'individu. Dans certains cas, on se rend compte que les propositions de l'administration ont été nettement supérieures à ce que les femmes elles-mêmes avaient demandé. Pour le Nord, le poids des femmes dans la demande, c'est 8%. Le poids des femmes dans la proposition faite par l'administration préfectorale, c'est 12%. Donc en fait, heureusement que la misogynie n'était pas aussi présente qu'on veut parfois bien le dire, et qu'il y a une compensation de cette réserve des femmes. Alors, je ne parlerai pas de modestie, mais de cette réserve des femmes à l'égard de la reconnaissance. Il n'y a pas forcément de demande de reconnaissance de la part des femmes.
Est-ce que les schémas stéréotypés ne rejouent pas, Catherine Lacour-Astol ? Ça veut dire, est-ce que peut-être que les femmes ne se sentent pas autorisées à réclamer une reconnaissance, tout simplement ? En disant, bon, ben, mon mari a évidemment toutes ses cartes de résistant, c'est le héros, bon, ben, moi j'ai fait un peu, mais j'ose pas demander. Est-ce que c'est caricatural de dire ça, ou est-ce que ça dit quelque chose de vrai de cette France de 1944, 45, 46 ?
Alors, je pense pas que ce soit caricatural, parce que le problème des stéréotypes, comme chacun sait, c'est qu'ils sont appropriés, qu'on vit avec, et que la parenthèse résistante ne change pas des décennies d'appropriation, de façon de faire, de représentation de soi. Et effectivement, je suis pas certaine que ce soit mon mari et le héros, c'est normal, et moi je ne le suis pas, mais les femmes ne sont pas traditionnellement dans le jeu des honneurs. Des honneurs. Donc, elles ne se sentent pas forcément concernées déjà par ça. Pour autant, il arrive qu'elles demandent, et qu'elles demandent même avec une certaine acrimonie, en disant « mais j'ai aussi ma fierté pour moi, donc je réclame ». Mais c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de revendication de reconnaissance. Certaines résistantes même témoignent en disant « moi je sais ce que j'ai fait ». Ce qui importe fondamentalement, c'est que je sais ce que j'ai fait. Et je n'ai pas forcément besoin du regard extérieur qui va pouvoir être porté ou pas sur l'action qui a été la mienne.
Je m'imaginais, étant jeune homme, jeune bourgeois intellectuel du quartier, que j'avais pas trop de préjugés masculins. En réalité, on en a toujours.
Témoignage de l'historien résistant Jean-Pierre Vernant, 1996.
Mais ce que m'a appris la résistance, c'est que les femmes, c'est des numéros fantastiques, c'est des personnes pas ordinaires. Sans les femmes, on pouvait rien faire. Elles sont arrivées à tisser le réseau de relations sans lequel on n'aurait rien pu faire et dans lequel l'ennemi, Vichy ou l'Allemand, essayait continuellement de couper. Et elles ont fait ça avec un savoir-faire et un courage formidable. J'ai quitté la résistance, changé à beaucoup d'égards, avec l'idée que vraiment les femmes, eh ben, chapeau.
Nous voilà arrivés au bout de ces 10 heures consacrées aux femmes dans la résistance. Et en conclusion de cette série, que retenir ? D'abord, ayez conscience qu'il n'y a pas d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. Non. La résistance fut une aventure collective, une expérience partagée par toutes celles et tous ceux qui se sont dressés contre le régime de Vichy et l'Allemagne hitlérienne.
Lucie Aubrac dans « Cette exigeante liberté », 1997. Les Français libres, c'était en France et hors de France, des combattants sans uniforme ou en armée régulière, des Européens, des Africains de toutes origines. Dans les cimetières, leurs squelettes blanchis confirment leur égalité. Et la fumée des fours crématoires lancée dans un ciel fraternel les derniers soupirs d'hommes, de femmes et d'enfants victimes de ces théories fascistes du choix racial, de la préférence nationale, comme on dit maintenant.
Je crois que la résistance bénéficie encore d'un prestige inégalé.
L'historien Olivier Vieviorca.
Je crois que lorsque on a des parents résistants, des grands-parents résistants, on en est fier. Et on a raison, je crois aussi, de l'être. Alors, cette formule pourrait apparaître comme passe-partout. Mais il faut voir que dans les années 80, la résistance a été quand même très violemment attaquée. En France, mais également... un peu plus tard, en Italie, avec, par exemple, les gouvernements Berlusconi, avec l'idée que la résistance avait été inutile, que la résistance, elle avait souvent provoqué des dégâts collatéraux qui auraient pu être évités si les résistants n'avaient pas été aussi bravaches, blablabla, blablabla. Je crois que tout ça est derrière nous. Donc je pense que la grandeur et l'intérêt de la résistance, c'est d'avoir d'abord maintenu haut et droit le drapeau, les valeurs démocratiques, d'avoir aussi contribué à informer les Françaises et les Français, d'avoir montré des exemples de patriotisme et de dévouement. Et c'est cela, me semble-t-il, qui reste de la résistance aujourd'hui en France.
Si on fait rien, personne ne fera rien. Il faut qu'on s'en sorte.
Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.
Cette France résistante a nourri notre mémoire collective depuis 80 ans. Une France dont on est fier, une France animée par les forces de la vie, adversaire des passions tristes, à l'opposé de la faillite morale et politique des caciques du régime de Vichy.
Geneviève de Gaulle, 1998. Peu à peu, nos voix disparaissent. Au moment où l'Europe se transforme et tente, non sans d'immenses difficultés, de faire vivre une relative communauté de destin, il est bon qu'on se souvienne que contre l'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne, des femmes de tous âges, de tous milieux, de toutes convictions, ont mis en jeu leur pauvre bonheur humain. Et plus, celui de leurs enfants, de leur famille, pour devenir combattantes de la liberté.
Enfin, une dernière question. Qu'est-ce que les femmes d'aujourd'hui, et par conséquent les hommes, doivent aux femmes de la Résistance ?
Je pense qu'en ne le sachant absolument pas, les femmes d'aujourd'hui doivent aux femmes qui sont engagées en Résistance précisément cette création d'une action engagée, conséquente, reconnue qui plus est, dans la société, qui par strates successives contribue à un rééquilibrage du rapport entre les hommes et les femmes dans notre société.
Catherine Lacour-Astol.
Il y a une évolution sur la génération d'après, dans les années 60, avec la possibilité pour les femmes de jouir de leur salaire, la possibilité pour les femmes de ne pas être dans la dépendance de l'accord du mari pour toutes les actions qui peuvent être les leurs, dont on ne peut pas dire de façon certaine que c'est un héritage de l'action résistante des femmes, mais dont on peut présupposer que cette avancée-là, elle a été rendue possible précisément parce qu'il y a eu une parenthèse pendant laquelle il y a eu un rapport équilibré entre les hommes et les femmes en faveur d'une action qui les dépassait. Et qu'on peut difficilement imaginer que ce partage-là n'ait pas eu un rôle 20 ans après dans l'évolution de la société. Et donc je pense que nous devons évidemment beaucoup, mais la génération des années 60 doit énormément, même si elle, on ne s'en est pas forcément rendu compte à ce moment-là, à l'action des résistantes de 40-44.
Pour clore notre récit, j'aimerais laisser les mots de la fin à Geneviève de Gaulle. En 1995, elle fut l'invitée de France Culture au micro de Ludovic Sellier pour la collection À voix nue.
Vous disiez une fois, à propos de la question du témoignage, vous disiez « Nous sommes des veilleurs dans la nuit, nous ne savons pas ce que deviendra l'histoire, mais nous savons ce qui s'est déjà passé. »
Écoutez bien la réponse de Geneviève de Gaulle à cette question. Et comme d'habitude, je vous laisse juge, chacune et chacun d'entre vous, sur ce que nous devons faire de cet héritage légué par ceux de la Résistance.
Nous sommes revenus en nous disant que nous devions témoigner. C'était une obligation, que nous avions compris un certain nombre de choses et que nous avions tout ce poids derrière nous, nos camarades morts, et que c'est ça qu'ils attendaient, des survivants. Tu en parleras, tu diras, tu n'oublieras pas de ceci et cela. Et ce témoignage-là, il est toujours utile parce que c'est quand même une mise en garde. Quand on affirme comme une idéologie que l'autre n'a pas les mêmes droits, qu'on doit le rejeter, qu'on doit le... C'est comme ça qu'on commence, c'est comme ça qu'on commence en disant « hors d'ici les étrangers » ou quand on commence à dire « les Juifs ou les Algériens ou tout ce que vous voulez, ce ne sont pas des gens comme nous » ou « on entend encore ces propos-là ». C'est toujours un début, hein. Alors c'est en ça que nous sommes un peu les veilleurs dans la nuit, parce que nous savons jusqu'où ça va à nous.
Les Résistantes, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Laure Calamy et Aurore Clément. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Les Résistantes est un podcast original de France Inter.